Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork La Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Richard. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
CEO et cofondateur de Lifee Air. Alors, c'est la première solution d'information locale et préventive pour l'allergie au pollen. Alors, c'est la société, vous allez nous l'expliquer, puis un service aussi qui s'appelle Live Pollen. Alors, je vous laisse déjà nous présenter Lifee Air.
Eh bien, Lifee Air est une société qu'on a créée avec mon associé, mon cofondateur, Johan, en 2018, fin 2018. Oui. Pour répondre à un besoin qui est tout simple et qui semble évident, c'est de donner de l'information en temps réel aux allergiques au pollen pour qu'ils puissent anticiper leur prise de traitement, etc. Donc l'idée, elle est venue tout bêtement et tout simplement d'un problème personnel et familial.
Comme
et,
souvent hein, pour la création d'entreprise.
C'est mieux de répondre à un besoin, en effet. Et quand il est personnel, du coup, on y met tout son cœur et voilà. Et donc, on a développé cette solution pour répondre à la majorité des allergiques qui n'avaient pas d'informations en temps réel. Et donc voilà, donc on a développé ce capteur, on a fait un contrat de collaboration avec un grand laboratoire français qui s'appelle le CNRS, avec lequel on a développé, on a fait de la R&D, de la science, pour arriver à un résultat aujourd'hui qui est un capteur de pollen breveté, qui est lui-même couplé à différents algorithmes d'intelligence artificielle pour délivrer un service que vous avez cité, le Live Pollen.
Oui, donc en fait, vous l'avez dit, hein, ça part d'un capteur. Voilà, c'est un capteur qui capte l'air et qui donne des informations justement sur la quantité de pollen dans l'air, sur le pollen en lui-même, hein, parce qu'il y a différentes sortes de pollen. Et après, les informations, on peut les retrouver sur une application.
Absolument. Donc, le capteur aspire de l'air. Dans l'air, vous avez ici, dans ce studio, des particules différentes, dont les pollens. Et ces particules, on va savoir les reconnaître grâce à un système optique qui va éclairer, en fait, les particules, dégager une signature lumineuse, et cette signature lumineuse est caractéristique en fonction des pollens. Et ensuite, en effet, il va falloir les trier toutes ces particules, il y en a des millions, et il va falloir ensuite travailler sur la séparation de ces différentes sources de particules pour savoir de quoi il s'agit. Et ça se passe côté serveur, on remonte les données en temps réel sur notre serveur, et ensuite, on va les catégoriser, on va dire c'est tel pollen, il y en a telle quantité, et on va définir un niveau de risque, ce niveau de risque qui va correspondre au potentiel de maladie, en tout cas de ressenti des allergiques, et ça va nous permettre derrière d'informer les gens sur Live Pollen. C'est une application qui est gratuite, qui est disponible sur les stores, et qui se diffuse là de plus en plus, puisqu'on est en train de développer notre réseau de capteurs en France.
Donc cette application, elle est téléchargeable sur Apple, sur Android, elle est gratuite pour l'utilisateur.
Elle est gratuite puisque ce sont l'originalité du système, de la solution, c'est que ce sont les collectivités qui investissent en fait dans cette solution, et donc en fait
c'est eux que vous démarchez, en fait. Voilà. Ce sont les collectivités.
Exactement, nos clients sont les collectivités qui prennent soin de la santé de leurs habitants. 25 à 30% de la population est allergique au pollen, c'est pas tout à fait rien. Donc elles ont bien compris qu'il y avait un vrai intérêt à développer cette solution, et dans le cadre de la solution de l'investissement des collectivités, il y a dans le package, il y a cette application qui est gratuite pour les usagers.
Alors du coup, vos clients sont les collectivités, vous l'avez dit, mais pas que, vous démarchez aussi des entreprises.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de démarches RSE, qualité de vie au travail, on a aussi engagé une démarche auprès des entreprises qui souhaitent améliorer le quotidien de leurs salariés. Et donc, en fait, on commence à travailler avec des entreprises parce que, par exemple, les allergies au pollen, c'est 7 millions de journées d'arrêt de travail par an. C'est considérable.
Ah oui. C'est vraiment c'est énorme.
Et il y a tous ceux qui ne s'arrêtent pas. Il y a tous ceux qui vont travailler, qui sont malades, qui ne savent pas qu'ils ont une allergie au pollen. Et en fait, on pourrait améliorer très facilement leur quotidien si on les informe en temps réel. Chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant.
Du coup, ça va permettre quoi? De faire de la prévention? De prendre un traitement, j'imagine? Des antihistaminiques ou autre chose?
Oui, absolument. C'est exactement ça. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on a une information qui est soit prédictive, celle qu'on a actuellement, soit décalée d'une dizaine de jours. Quand on a l'information en temps réel, on sait ce qu'il y a comme pollen. Avant de sortir chez soi, on va prendre son antihistaminique. On va éviter de sortir vraiment s'il y a une grosse émission de pollen. Bref, on va pouvoir anticiper sa crise. Et donc, c'est ça la clé, c'est de prendre ses antihistaminiques plus tôt pour arriver ensuite à être moins malade, pour avoir des effets beaucoup moins importants et donc se sentir mieux quand on est au travail, par exemple. Avoir les yeux qui pleurent, éternuer toute la journée, etc. Tout ça permet d'anticiper et se soigner plus tôt, c'est la clé. Hein. D'ailleurs, les allergologues vous disent, prenez vos antihistaminiques dès exposition.
Oui, il faut commencer avant, apparemment, enfin, dès l'exposition. On ne sait pas encore qu'on est exposé.
Bah, jusqu'à maintenant, on ne le savait pas. Ouais. Mais avec Live Pollen, avec Live Hier, on sait qu'on est exposé.
On sait qu'on est exposé.
Voilà. Et donc, en fait, c'était un peu une injonction paradoxale de dire aux gens, bah, prenez vos médocs parce que vous êtes exposé. Mais quand ils ne savaient pas, bah, ils ne pouvaient pas savoir. Donc, ils étaient exposés, ils étaient malades et ils avaient l'information trop tard.
Aujourd'hui, pardon, il y a une trentaine de territoires qui sont couverts, une vingtaine de collectivités, c'est ça ?
C'est ça, on commence à déployer de façon sérieuse la solution. Hein. Je vous rappelle qu'on a à peine 4 ans, on a eu 2 ans de R&D, 2 ans et demi. Il a fallu démontrer, convaincre, faire la preuve de notre concept et de notre solution. Et là, aujourd'hui, on est en train de commercialiser auprès de collectivités. Donc, on a trouvé un certain nombre de collectivités pour faire une première expérimentation. C'est en cours, on est en train de déployer. Là, on démarche des nouvelles collectivités. On en aura des nouvelles l'année prochaine, pas la semaine prochaine, enfin peut-être aussi. Mais du coup, on est sur une vingtaine de collectivités. Ça va du nord. On est par exemple à Dunkerque, on est à Lens,
jusqu'à
la Corse, absolument,
Bastia.
Avec Bastia qui sera équipé au mois de juin. Et puis voilà, puis entre les deux, on a Saint-Quentin-en-Yvelines, la métropole de Rouen. Bon, je vais pas tous les citer, Vichy, Saint-Étienne, Istres, Aix-en-Provence.
Voilà. Oui, donc tout le territoire français est assez couvert au final.
Oui, parce que les pollens, il y en a partout. Ouais. Il y en a partout, il y en a tout le temps, quasiment tout le temps. Dans le sud, ça commence au mois de décembre, janvier avec les cyprès.
Oui, c'est vrai.
Et puis ça finit partout dans toute la France à peu près mi-octobre pour les lambroisies. Et puis ça repart en décembre. Donc vous voyez, un battement d'un mois et demi qui est relatif.
Ouais, donc ça peut vraiment changer la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et alors comment vous faites la promotion de ces capteurs auprès des collectivités justement ? Vous allez les démarcher, j'imagine, avec des commerciaux. Après, comment vous leur vendez un petit peu le produit ?
Bon, c'est pas très compliqué. On les appelle. On leur fait part de la situation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément conscients qu'il y a 30% de la population, 17 millions de personnes en France qui sont concernées, c'est quand même pas rien, et on leur dit, bah voilà, il y a une solution pour améliorer la santé de 25% de votre population. C'est une solution innovante, elle n'est pas très chère au final, c'est relativement abordable pour une collectivité. Et donc voilà, on les aborde comme ça dans un cadre un peu technique et ce qu'on appelle dans une collectivité le PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale, qui regroupe l'ensemble du monitoring ou de la surveillance d'un certain nombre de paramètres territoriaux. Et la surveillance des pollens fait partie de la qualité d'air, fait partie de la santé. Donc parfois, on a aussi des plans locaux, des contrats locaux de santé dans les collectivités. Enfin bref, tout ça, ça fait un mix qui résonne très fort auprès des politiques ou auprès des techniciens, ce qui nous permet d'aborder la question de façon très simple. Et dès qu'il y a prise de conscience, on n'a pas de déchets, en fait, finalement, puisque tout le monde est intéressé, tout le monde est d'accord pour améliorer la vie de 25 à 30% de sa population. Donc, petit à petit, on a des discussions avec eux. C'est très long, les collectivités.
J'imagine, le millefeuille administratif.
Oui, c'est très, très long. Ouais. Il y a des prises de décision, les techniciens qui font une petite note à leurs élus, les élus qui en parlent entre eux. Ensuite, ça passe au conseil, etc. Ouais. Enfin, bon, ça peut prendre 6, 8 mois. Donc, la commercialisation est très longue.
Et après, c'est sous forme d'abonnement, du coup. Les collectivités payent chaque mois une somme d'argent. Il y a combien de capteurs en général par commune, par agglomération ? Ça dépend, j'imagine, de la taille ?
Ça dépend de la taille, ça dépend du budget. Mais globalement, en fait, on est en moyenne sur 5-10 capteurs par collectivité. On a des collectivités où il y en a un peu plus. Par exemple, sur Saint-Quentin, on en a une douzaine. Oui, les grosses villes, les gros territoires. Et puis, de toute façon, plus on va faire un maillage serré, plus on sera performant.
Bien sûr.
Après, en moyenne, 5 à 10 capteurs peuvent déjà suffire. Hein. Je vous rappelle, je vous le dis, 70, aujourd'hui, la méthode historique actuelle n'a que 70 capteurs qui ne sont pas automatisés dans toute la France. Aujourd'hui, nous, on en a plus de 120 sur tout le territoire. Donc, on a déjà multiplié, quasiment multiplié par deux. Et du coup, en fait, comme l'émission de pollen est très locale, plutôt que, on peut pas mettre un capteur par département, ça ne suffit pas. Oui. Comme c'est très local, il faut en mettre un certain nombre pour avoir quelque chose de correct et surtout une mesure en proximité pour faire de la vraie prévention.
Avec des zones plus exposées que d'autres, j'imagine, au niveau local. Ces capteurs, du coup, ils sont, ils sont disposés où dans les villes?
Alors, ils sont, il y a plusieurs solutions. On peut les mettre sur des bâtiments publics, en règle générale, sur des écoles, par exemple. Oui. On peut les mettre sur des lycées, on peut les mettre
des gymnases, des équipements
culturels. On peut les mettre sur des candélabres, on peut les mettre partout. Hein. En fait, le capteur, il n'est pas très gros, il fait à peine 2 kilos. Et il y a un système de fixation verticale, horizontale, il se fixe très bien. On le branche sur le courant, donc on fait une alimentation. Et puis, dès qu'il est branché, c'est parti, ça commence à mesurer. Un quart d'heure après, on a déjà les premières mesures.
D'accord. Ces capteurs sont fabriqués en France ?
Tout à fait.
Dans le Doubs ?
Dans le Doubs, oui, exactement.
Le Doubs, une commune que je connais bien, puisque j'ai mes grands-parents là-bas,
et ben voilà,
à quelques kilomètres, Héricourt.
Voilà. Exactement, on travaille avec une boîte qui s'appelle A2E, qui est une jolie PME française. On a fait ce choix de la fabrication française pour plein de raisons, déjà par conviction. On a quand même quelques convictions chez l'IFIR, et puis aussi par la proximité, c'est-à-dire que quand on a un problème, quand on a des solutions à trouver, c'est quand même plus simple de bosser avec une boîte en proximité. Et puis, en termes de flux, d'impact carbone, etc., c'est quand même vachement mieux de le faire chez nous. Et donc, voilà, pour ces raisons-là, on a fait ça à Héricourt, en effet. Et puis, on en est très, très contents parce que ça offre aussi une certaine réactivité, une proximité. Enfin, pour nous, c'est l'idéal.
Oui, c'est important pour vous, l'empreinte carbone, de la réduire au maximum.
Ben oui, bien sûr. On est malgré tout sur des appareils électroniques, hein, donc on ne peut pas faire sans alimentation. Mais on a déjà sur la version, entre les deux versions de notre capteur, la première version, la version qui est sortie du laboratoire, et puis la version industrialisée, on a quasiment divisé par deux la consommation. Oui. Voilà, donc on a optimisé ça. Après, on ne peut pas s'exonérer d'alimenter, mais pour nous, c'est important, puisqu'on parle d'environnement, on parle d'impact. Les pollens, c'est aussi un marqueur du changement climatique, enfin, on ne peut pas s'exonérer d'avoir ça en tête.
Ah oui, le changement climatique influe vraiment les pollens ?
Oui, bien sûr. Depuis les années 70, on a beaucoup plus de pollen. Enfin, depuis plusieurs années, l'augmentation du CO2, la pollution, il y a des interactions entre la pollution et les pollens, etc., fait que, comme on a un changement climatique, on a les températures augmentées, etc., on a des espèces qui migrent du sud de la France, enfin, du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe, qui sont très allergisantes, et du coup, on a un vrai impact du changement climatique, en effet.
Donc vous l'avez dit tout à l'heure, hein, entreprise créée en novembre 2018, donc l'IFIR. À la base, vous étiez deux cofondateurs, 12 collaborateurs aujourd'hui.
Exactement, on est même 14 puisqu'on
avec
a
les stagiaires.
Avec les stagiaires, hein, et les stagiaires, c'est quelque chose de très important aussi dans une entreprise comme la nôtre. Déjà, notre démarche de formation, d'accompagnement des jeunes, et donc on est 12 aujourd'hui salariés. On est passé de 1 à 12 en 4 ans et on a des compétences très, très spécifiques, hein. Il y a une grosse partie science dans notre métier. Donc on a deux doctorants là qui sont en train de passer leur thèse en fin d'année.
D'accord.
On a deux techniciens électroniques, on a deux développeurs pour les infrastructures, le développement de l'application, etc. On a deux product owners parce que en fait l'usage aussi de l'application, savoir ce que les gens attendent, ce dont ils ont besoin, est-ce qu'on a développé telle et telle fonctionnalité, est-ce que ça leur convient, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir, etc. Donc on a deux product owners qui font de l'interaction avec nos clients, collectivités, mais aussi avec les usagers. Et puis, on est deux cofondateurs en plus, et une personne sur le commercial donc, qui prend son téléphone, appelle les collectivités, qui démarche à longueur de journée. Donc on fait des visios, on fait des centaines de visios tous les ans pour arriver à trouver des clients et à les convaincre. Et les visios, on les fait à plusieurs. Hein. Il y a toujours le commercial et un des cofondateurs qui fait partie. Tout simplement pour raconter l'histoire. Et puis, il se trouve aussi qu'on a l'un et l'autre, Johan et moi, on a une expérience dans la collectivité. Moi, je suis élu d'une petite commune sur la métropole d'Orléans. Donc, je parle le langage collectivité, c'est important. Je connais le fonctionnement, les rouages, les financements, etc. L'aspect politique aussi n'est pas négligeable. Donc, en fait, on participe à l'ensemble des visios, ce qui nous permet tout de suite d'avoir...
Ça a plus de poids, en fait.
Ça a plus de poids. Et puis, surtout, ça permet de parler le même langage et de comprendre comprendre aussi ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que ce qui pourrait être interprété comme un refus ou un ajournement, c'est juste logique. C'est-à-dire c'est le process de la collectivité qui est comme ça. Donc il ne faut pas se tendre par rapport à ça, il faut savoir l'entendre.
Oui. L'entretien des capteurs, après, ça se passe comment ?
Alors, les capteurs, ils sont faits pour être dehors, hein, évidemment, ils aspirent de l'air, donc ils peuvent s'encrasser, mais on a un système où l'air passe à travers et ressort de l'autre côté. Donc, a priori, il n'y a pas trop d'encrassement. Alors, on n'a pas 10 ans de recul non plus, on a 4 ans de recul. Mais en fait, l'entretien, c'est simple. S'il y a un problème, on les monitore à distance, on a quelques paramètres que l'on va récupérer qui vont nous donner la santé du capteur. Si le capteur fonctionne mal, on le remplace. Pendant les 2 ans de garantie, on va le remplacer. On le récupère, on en renvoie un, ça se croise, ce qui fait qu'on ne perd pas de données. On ne perd pas du temps à faire des diagnostics, à n'en plus finir. Ça, c'est pendant les 2 premières années. Et à partir de la 3e année, on fait une petite maintenance simple, préventive, qui va repousser la garantie pendant plusieurs années, jusqu'à 6 ans à peu près.
D'accord.
Ce qui nous permet d'avoir un capteur toujours opérationnel, d'avoir des capteurs qui se croisent. Quand il y en a un qui ne marche pas, on en renvoie un opérationnel. Et donc, on ne perd pas les données, et donc on ne pénalise pas les allergiques. Donc voilà, c'est le système qu'on a trouvé un peu, voilà, entre guillemets, à la Amazon, où c'est service first, et ça ne marche pas, on vous en renvoie un, on ne s'occupe pas de pourquoi, comment, on verra après, et on fera le diagnostic après.
Donc, il y a vraiment une prise en charge sur le long terme.
Tout à fait.
Vous chouchoutez vos clients.
C'est important. C'est important. C'est pas simple, hein, d'aller mettre sur des capteurs sur des bâtiments, etc. Plus on va complexifier la chose et moins on aura de clients. Hein. Donc en fait, il faut le rendre fluide, il faut le rendre simple, faut complètement
démocratiser
la chose, leur dire non mais attendez, c'est super simple, on le branche, on l'enlève, on le remet. Enfin ça c'est le cas, hein, mais il y a toujours un peu dans l'inconscient collectif la difficulté de mettre des capteurs, d'avoir de la maintenance. Ah oui, mais vous rendez compte, c'est dehors. Que ça va marcher, etc. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas trop de problèmes avec ça.
Oui, vous n'avez pas de soucis majeurs. Du coup, l'application gratuite, un live pollen pour les utilisateurs. Vous savez combien il y a d'utilisateurs ce jour ?
Il y a une dizaine de jours, parce que là je reviens de quelques jours de repos, mais il y a une dizaine de jours, il y avait 7000 ou 7500, je crois qu'on est à 8500 aujourd'hui utilisateurs, sachant qu'on n'est pas encore sur tous les territoires français, donc ça augmente, hein, ça augmente de façon régulière, on a un taux d'usage qui est sympa, on a des retours aussi surtout, hein, puisqu'on a un panel, on a fait un panel sur ces usagers de bêta-testeurs, et donc on les contacte, on échange avec eux, etc. Donc non, ça augmente très bien. Enfin, la courbe est très belle en termes d'usage et en termes de téléchargement. Voilà. Après, ça va prendre de la vitesse et de l'ampleur on aura équipé tout le territoire, ce qui est logique. Hein, donc, on est très content. Enfin, on arrive de nulle part. Hein. on sort de 2 ans et demi de R&D et là, on arrive avec une application qui révolutionne un peu l'information pollinique. Et là, les gens s'en emparent et nous font des retours plutôt intéressants.
Et du coup, qui fait la publicité auprès des utilisateurs pour cette application ? C'est les collectivités, parce que vous démarchez les collectivités et après c'est un peu aux collectivités de jouer le jeu et de vendre l'application entre guillemets, de dire bah voilà, il existe une application, elle est disponible gratuitement pour vous, pour les citoyens. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des collectivités qui jouent plus le jeu que d'autres ?
Oui, alors c'est les deux. En fait, vous avez raison, les collectivités, quand elles ont investi dans Live Pollen, la solution Live Pollen, elles vont la promouvoir sur leurs réseaux sociaux, elles vont la promouvoir dans la presse, etc. Donc en fait, on fait beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews de presse, de conférences de presse avec des collectivités qui lancent le service.
D'accord.
Après, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, certaines collectivités nous ont fait des super posts et d'un seul coup, on s'est pris 300, 400 utilisateurs. Nous, on a du coup, en lançant le service il y a quelques mois maintenant, on a commencé à travailler sur les réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas fait avant, hein, puisqu'on était plutôt une boîte technique, scientifique, etc. Là, on a créé la marque Live Pollen, qui est une vraie marque maintenant, et qui porte l'ensemble du projet. Et donc, en fait, on a développé des réseaux sociaux sur un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus amusant, pour essayer d'emmener un petit peu les gens dans l'histoire. Donc, en fait, la publicité, elle est faite comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, on fait pas mal aussi, du coup, on suscite aussi de l'intérêt, hein, notre présence ici, et sur plein d'autres médias. Et donc, en fait, là, c'est un peu la course au niveau de la presse, au niveau des radios, etc. Parce que du coup c'est nouveau, parce que ça révolutionne, parce que c'est innovant, parce que c'est français, parce que plein de choses. Et du coup voilà, cette promotion elle se fait de façon très fluide et de façon assez naturelle finalement.
Quelle est la plus grosse ville que vous avez équipée ?
Alors, c'est probablement la métropole de Rouen, hein, oui. Voilà, qu'on est en train de finir d'équiper. Là, le service est lancé, a été lancé la semaine dernière, donc c'est la métropole de Rouen. Donc, je ne sais plus, il y a peut-être 300 000 habitants à peu près. Oui. Voilà, c'est quand même assez, assez gros. Après, on est sur Saint-Quentin-en-Yvelines, oui. qui est une collectivité, un EPCI aussi, oui. qui est assez important.
Importante.
Voilà, après on est sur des villes moyennes, je vous en parlais tout à l'heure, Dunkerque, Aix-en-Provence, Istres.
Et alors Paris, Lyon, Marseille, vous essayez de les démarcher, vous attendez un petit peu d'avoir le retour d'autres villes assez importantes. Parce qu'il y a beaucoup de pollen, hein, je parle de ça, parce que le pollen dans les grosses villes comme ça, c'est vraiment insupportable, c'est mélangé à la pollution, enfin, je trouve que c'est encore plus compliqué à vivre quand on est allergique au pollen.
Alors, les grosses villes ont la particularité d'être très complexes pour les aborder et avec des process qui sont un peu compliqués pour nous, pour une petite boîte comme nous.
Encore plus de mille feuilles,
encore plus d'intervenants, encore plus de spécialistes, enfin, c'est toujours pareil. Donc en fait, on a des contacts avec les grosses villes que vous avez citées, on a Bordeaux, on a Paris, on a Lyon, Marseille, etc. Ça va venir, je pense que c'est des choses qui vont venir. C'est plus simple d'aller voir une collectivité où les gens ont un peu plus la main sur leur territoire, où c'est un peu moins complexifié parce que y a un élu qui trouve que c'est intéressant et on y va. Mais en effet, sur les grosses villes, sur Paris, enfin, on a des capteurs sur Paris. Hein. Il y a quand même Vanves, il y a quand même Antony, c'est pas Paris, mais en proximité, c'est à côté.
Après, ce sera intéressant d'en avoir intra-muros.
Alors, ce serait bien d'en avoir intra-muros, en effet. Il n'est pas dit qu'on ne le fasse pas. Hein. Ça viendra. De toute façon, je pense qu'on aura un phénomène. On a une phase de conquête, un peu là, comme toute start-up, où on va conquérir les premiers clients. Et ensuite, derrière, il va y avoir un phénomène de suivi. Un phénomène de suiveur qui est pas péjoratif, hein, il y a des gens qui aiment bien voir si ça marche avant d'installer ou qui s'en sont pas préoccupés ou qui ont mille autres choses à faire, hein, puisque nous on arrive sur un petit problème, enfin sur un gros problème, mais qui fait partie de plein de milliers de problèmes dans une collectivité. Donc du coup voilà, le suivi, là il y a pas très longtemps on a eu Marseille, ça va le faire. Sur Lyon, on a mis 4 capteurs en propre au nord de Lyon, donc en fait les usagers de Lyon peuvent déjà utiliser Live Pollen. Enfin, on peut aussi nous poser nos propres capteurs, on peut, donc ça va venir, hein. c'est tout neuf, hein. Ça fait un an qu'on commercialise, hein. L'objectif c'est de développer un réseau sur tout le territoire français et au-delà.
Donc ça c'est l'objectif. En termes de développement au niveau de l'équipe, là vous envisagez des recrutements?
Alors on est bien staffé là. On est au complet. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui de staffer un peu plus. Peut-être qu'il faudra muscler un peu le marketing, l'équipe internationale quand on va développer l'international.
Oui, le but c'est de développer au-delà de la France.
Bah oui, parce que la problématique des allergies au pollen et l'augmentation des allergiques de 7% en 70 à 30% aujourd'hui, ça concerne le monde entier. Hein. C'est pas que en France, donc c'est pas cloisonné. Donc en fait, il va falloir qu'on développe à l'international. Donc il y aura probablement des créations de postes là-dessus. Il va falloir qu'on muscle un peu notre équipe de développement parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à apporter sur l'application. Et là, il va falloir qu'on muscle parce que là, on est un peu limite. Et puis le commercial. À un moment donné, le commercial va être aussi important.
C'est important, c'est un peu la locomotive.
C'est un peu la locomotive, oui. Mais du coup, on commence à avoir ce phénomène de prescription, d'appel entrant, etc. Donc en fait, ce sera pas forcément du commercial de démarchage, mais plutôt du commercial de traitement des demandes et d'accompagnement, donc plutôt du commercial.
Oui, c'est vrai que quand ça marche bien, les demandes viennent là où nous, on n'est plus obligé de prospecter.
C'est ça. Ouais. Donc après, je pense pas qu'on ait besoin d'être beaucoup plus que ce que je viens de décrire, peut-être 3-4 personnes de plus l'année prochaine.
D'accord.
Et pour faire ça, il va falloir aussi qu'on arrive à une démarche, je pense qu'on va en parler aussi, de levée de fonds pour l'accélération.
Alors justement, les levées de fonds, c'était la prochaine question. Il y en a déjà eu ?
Oui, on a fait une première levée de fonds sur une plateforme qui s'appelle Sowifone. Qui s'est bien passé. C'est bien placé. C'était compliqué.
À mettre en place?
Bah non, la mise en place s'est bien passée, mais en fait, on a lancé la levée de fonds, c'était le Covid, quoi. Ah oui. Le lendemain, on a confiné, donc on a un peu ramé. Et puis finalement, on a levé moins que prévu avec ce WeFund, mais c'est la faute à personne. C'était pas le moment. On n'était pas dans le bon timing.
Même pendant le confinement, avec toutes les personnes sur Internet, ouais. Ça a pas marché.
Non, pas forcément. Les gens n'étaient pas forcément dans une démarche d'investissement.
Ouais.
Ils étaient plutôt à se recroqueviller sur leur épargne.
Ils ont beaucoup épargné.
Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Du coup, en fait, on a bien bossé avec ce WeFund. Ils ont été réactifs. Donc en fait, on a levé, on a dû lever 160 000 euros à peu près,
ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà très très bien. Et puis du coup, comme on est une entreprise innovante, deep tech, bien suivie par BPI, on est lauréat du concours eLab. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce concours-là, c'est un concours qui est un super concours d'innovation. Oui. Et étant lauréat de ce concours-là, ça nous a donné accès.
Très belle vitrine. Ouais.
Voilà, ça nous a donné accès, bon, d'une part à une subvention conséquente, mais d'autre part, ça nous a permis d'avoir un effet de levier avec BPI suite à la levée de fonds.
D'accord.
Et donc en fait, globalement, on a fait un tour de table d'environ 600 000 euros. En dilutif, non dilutif, ce qui est très bien. Voilà, ça nous a beaucoup aidé.
Un beau tour de table.
Tout à fait.
Et du coup, des prochaines levées de fonds prévues. Alors, ouais. Je ne sais pas si vous pouvez en parler pour l'instant,
bon,
mais...
C'est pas stabilisé. Oui, bien sûr, on va lever des fonds pour accélérer.
Bien sûr.
Là, il va falloir que...
L'idée, c'est quoi ? C'est d'augmenter la production de ces capteurs ?
Alors, la production, on a la capacité à le faire. On a pris une entreprise qui est capable de nous emmener assez loin.
D'accord.
Voilà, donc on peut le faire assez bien. Et avec la capacité à fabriquer pour la France, mais aussi, par exemple, pour les États-Unis, on a des normes différentes de fabrication, parce que notre capteur, maintenant, il est industrialisé. Hein. Enfin, on a fait le développement, on a fait le brevet, on a fait l'industrialisation très rapidement. Donc en fait, oui, il faut qu'on lève des fonds pour pouvoir accélérer et aller notamment à l'international. Là, on commence à avoir
des demandes,
des entrées sur les États-Unis où c'est pas le même marché. Hein. Le marché est différent sur les États-Unis. En France, c'est les collectivités, l'État, etc. Puisqu'on est dans une démarche de curative, on va dire, entre guillemets, par rapport à la santé. Dans certains pays, on est plutôt sur de la prévention.
On ne fait
pas de prévention. Moi, ça me désole qu'on ne fasse pas de prévention dans notre pays, ou pas suffisamment.
Les pays nordiques aussi, ils font beaucoup plus de prévention que la France. Ils axent tout. D'ailleurs, ils ont beaucoup de moyens pour la prévention. C'est le cas. Enfin, vous envisagez les démarcher ?
Alors, oui, on a déjà des contacts, puisqu'on a participé au mois de novembre dernier au salon Slush à Helsinki, en Finlande, qui était d'ailleurs un salon à taille humaine et vraiment très intéressant. Donc on a rencontré les gens des Nordiques, que ça soit les Finlandais, les Norvégiens, les Danois, etc. Donc oui, ça fait partie de nos plans. Les États-Unis font partie d'un autre volet de nos plans. Et voilà. Et avec des entrées un peu différentes et des façons de commercialiser un peu différentes.
Sûr.
On va être plutôt sur du B2C, par exemple, aux États-Unis. En France, on est sur du B2G, business to government. Et derrière, on a les utilisateurs. Enfin bref. Donc voilà. Donc la levée de fonds, fin d'année, début d'année prochaine. On est en train de structurer un peu la démarche, on est en train de voir un peu notre stratégie, on est en train de voir où on va mettre les moyens si on les obtient.
Et puis après, un modèle économique donc, qui variera en fonction des pays.
Exactement.
Des pays ciblés.
Sachant qu'on a un modèle aujourd'hui qui n'est pas très simple. Hein. Vendre à des collectivités, ce n'est pas très sexy pour des investisseurs.
c'est surtout pour vous que c'est un peu, ça peut être un peu laborieux.
C'est un peu laborieux, mais c'est un passage obligé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exonérer, quoi qu'il arrive, de faire des réseaux de capteurs. Il faut bien les faire financer par quelqu'un, on ne peut pas le faire en propre. Et donc du coup voilà, en France c'est ça, en fait on veut faire une sorte de démonstrateur à l'échelle d'un pays qui est la France, et on se dit comme c'est pas simple, si on réussit en France on est plutôt
on
bon
marcher,
pour le reste du
ça
monde
peut marcher partout.
C'est quand même vachement plus simple ailleurs, mais sérieux, hein, c'est vrai que c'est d'une complexité, voilà. Alors, on est super bien aidé financièrement, accompagné, enfin je redis, BPI, la région, enfin tous ces gens là nous accompagnent parfaitement financièrement. Après, l'accès au marché, la promotion des solutions, le fait de ne pas être challengé sur toutes les virgules, etc. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Et c'est la France. Voilà, tout le monde sort parapluie, ceinture, bretelles et parachute. Et voilà, donc ça fait partie du jeu. Donc on se dit que si on est bon en France, si on y arrive, et on va y arriver.
C'est un bon exercice.
C'est un bon exercice, voilà, c'est exactement ça.
Bon, merci infiniment en tout cas, Jérôme Richard, d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup. L'émission touche à sa fin. C'était un plaisir de vous recevoir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.